Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est l'entreprise emblématique ou l'une des entreprises emblématiques de la révolution industrielle numérique à tel point qu'elle est à l'origine d'un terme générique pour parler de cette révolution, l'ubérisation. Mais Uber, puisque c'est de cette entreprise californienne qui a révolutionné le transport urbain automobile que l'on parle, Uber donc, ne va plus aussi bien. La réglementation s'adapte à tel point qu'elle est sous la menace d'une suspension de sa licence à Londres, qu'elle a hésité à suspendre son activité sans passer à l'acte ce week-end au Québec. Le fondateur a été renvoyé pour cause de harcèlement sexuel et de comportement général plus que douteux. Les chauffeurs se révoltent, une nouvelle concurrence arrive. Est-ce l'heure du reflux et du déclin pour Uber ? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. François Lévesque, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à Mines Paris Tech et auteur du livre Les habits neufs de la concurrence. C'est aux éditions Odile Jacob. Et Denis Jacquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation et auteur du livre Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Point d'interrogation, c'est important de le préciser, C'est aux éditions Dunod. Uber a été une vraie révolution dans le transport automobile urbain des personnes. L'entreprise fondée par Trevor Kalanick a rencontré des résistances, notamment des chauffeurs de taxi dans de nombreuses villes du monde. Mais récemment, elle rencontre d'autres résistances, des résistances réglementaires dans des endroits où elle est déjà fortement implantée, notamment à Londres où sa licence est suspendue, où elle fait appel de cette décision. Uber est-elle confrontée à de nouvelles difficultés ? François Lévesque.
La difficulté numéro un d'Uber, en fait, c'est sa croissance qui a été vertigineuse. C'est-à-dire que Uber est une entreprise de transport local. Et donc, ce qui était tout à fait intriguant dans son modèle d'affaires, c'est que, au lieu de gagner progressivement les différentes villes aux États-Unis, dès le départ, elle s'est donné un objectif de dominer le monde entier
des villes. Une ambition mondiale, oui.
Et donc, alors qu'il n'y a pas de concurrence entre le transport urbain à Paris et le transport urbain à Londres, hein. Si vous voulez un taxi à Londres, c'est pas la peine, c'est pas substituable avec, c'est pas les mêmes chauffeurs. Et donc là, ce qui est l'arrêt, c'est à cette croissance vertigineuse, alors que des concurrents ont été plus modestes. Prenons Lyft. Lyft a fait sa croissance aux États-Unis principalement.
Alors, Uber est-elle confrontée à des difficultés qu'elle n'avait pas anticipées, Denis Jacquet?
J'allais dire que quelque part, le sort d'une entreprise n'est jamais figé dès sa création et encore moins pendant sa vie. Et on aura vu depuis toujours des sociétés en pleine croissance s'écrouler en plein milieu. Et d'ailleurs, paradoxalement, d'ailleurs, parfois, notamment en France, les sociétés en pleine croissance sont dans la période la plus dangereuse de leur vie. Donc de toute façon, une boîte en croissance est toujours en danger. Donc ça, j'allais dire, c'est quasiment congénital.
Les entreprises vivent et meurent, c'est comme ça.
Exactement, c'est comme ça. Donc vous s'y habituez, nous aussi. Hein, donc c'est un peu le cycle de la vie. La deuxième chose, c'est que lui a compris par rapport à beaucoup d'autres que le premier sur un marché mondial aurait beaucoup de mal à se voir damer le pion ensuite. C'est-à-dire qu'il peut avoir des petites défaites locales sans que ça entraîne forcément sa défaite globale. Puis la troisième chose, c'est qu'à un moment donné, la marque est importante. C'est vrai que la marque est très répandue, elle est connue partout. Lyft est 100 fois moins connu qu'Uber et tous les concurrents qui arrivent derrière finalement n'innovent pas beaucoup ni dans le modèle ni dans le fonctionnement, donc ils ont du mal à décrocher. Alors après, il y a un combat effectivement entre deux choses souvent assez paradoxales, c'est-à-dire des États qui ne savent plus dans les pays occidentaux principalement créer de nouvelles activités, qui disent à quand même peut-être pas trop les perturber parce qu'en attendant, ils nous emploient des wagons d'anciens chômeurs, disons-le caricaturalement. Et puis de l'autre côté, en même temps, des gens qui sont des locaux, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, qui votent chez eux, qui votent à chacune des élections. Qui sont chauffeurs de taxi et qui ont aussi une certaine forme de pression, y compris médiatique, parce que quand ils descendent dans la rue, ça se voit beaucoup plus que quand une esthéticienne n'en fait autant.
Ouais. Alors, mais ceci dit, c'est une plateforme.
François Lévesque, allez-y.
Oui, je t'en perds un peu. C'est une plateforme, mais qui est facilement imitable. C'est-à-dire, contrairement à Google, par exemple, avec son moteur de recherche, c'est difficile de créer un nouveau moteur de recherche. Créer une plateforme de taxi, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est un modèle imitable. Et en plus, les clients, ils peuvent changer facilement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs applis. Si vous prenez mes élèves à l'école des mines, ils ont 3 ou 4 applis sur Paris de VTC. Vous pouvez changer d'appli. Et les chauffeurs, ils peuvent aussi changer. Et ils peuvent même servir plusieurs plateformes.
Ouais, ils en font.
Et donc c'est quand même une entreprise c'est un business qui a du mal à asseoir sa dominance parce que la concurrence reste forte, parce que son modèle est imitable. Et puis, les clients peuvent bouger. passagers et les chauffeurs aussi.
On va rester sur cette question de concurrence. D'abord, l'ancienne concurrence, celle qui avait été frappée de plein fouet, par Uber, elle s'est adaptée. Les taxis proposent des forfaits pour les aéroports. Les VTC, comme vous le disiez, continuent à exister. On va peut-être pas forcément citer toutes les entreprises de VTC qui opèrent sur la place de Paris. Est-ce que cette concurrence s'est clairement adaptée, Denis Jacquet?
Ouais, gentiment, mais c'est vrai que si on repart du point de vue, je suis assez d'accord avec Monsieur Lévesque, en fait, leur modèle est imitable. Ce qui est inimitable, c'est la vitesse. Et on aurait pu dire, il y a 15 ans, la même chose d'Amazon, qui perdait de l'argent tous les ans, dont tout le monde annonçait la fin l'année d'après, et qui aujourd'hui domine le monde. Donc à un moment donné, ils ont bien compris que si tu es mondial, si tu es écrasant et dominant, à un moment donné, tu finis par imposer ton modèle, même si quelque part, techniquement... Alors je suis moins d'accord, on pourrait, Quant est en train de faire mieux Google sous certains aspects, on peut créer des moteurs de recherche, des modèles différents en plus, avec un modèle économique différent autour. Tout est à peu près imitable aujourd'hui. La seule chose qui soit inimitable, c'est quand vous êtes mondial et que vous êtes 10 ans devant tout le monde, c'est très difficile à mettre en œuvre. Donc, par contre, oui, effectivement, nos taxis sont plutôt plus sympas qu'avant. Ils font un peu plus attention à nous qu'avant. Ils sont passés d'un stade où on était des usagers, où on commence à devenir des clients. C'est plutôt une bonne surprise aussi pour les touristes étrangers qui arrivent en France.
Merci d'avoir utilisé des taxis parisiens. On n'entendait pas beaucoup ça avant.
Exactement.
Quand on circulait dans Paris.
Ouais. Donc, c'est mieux. Mais c'est pas encore idéal. Vous arrivez à Londres. Le gars bouge pas de son taxi, vous ouvre pas la porte et vous prend pas votre valise. Donc voilà, il y a encore des petits efforts à faire.
Alors justement, on va partir à Londres. Les difficultés réglementaires que j'évoquais, l'autorité des transports de Londres a suspendu la licence d'Uber. Un appel a été fait. C'est pour des raisons de sécurité, notamment que ça a été fait. Il semblerait qu'on reproche aux conducteurs Uber de pas toujours rapporter ce qui se passe dans les taxis. Le fait que les villes et les régions s'organisent, clairement, François Lévesque, c'est quelque chose qui peut aller à l'encontre des intérêts de la multinationale Uber.
Alors oui, parce qu'il y a plusieurs municipalités, plusieurs régions qui ont essayé de mettre et ont mis des bâtons dans les roues du développement d'Uber, mais avec plus ou moins de succès. Là où il y a un angle intéressant de Londres, c'est l'angle de la sûreté, plutôt que de la concurrence déloyale. C'est l'angle de la sûreté parce que chauffeurs moins bien formés, parce que conditions de sécurité pour les passagers moins fortes et moins respectées. Et donc là, c'est un angle qui semble pertinent et qui a permis à l'autorité londonienne de supprimer la licence.
Ouais, par exemple, rien n'empêche des chauffeurs d'Uber de faire des heures qui sont fatigués au volant et que la sécurité des passagers n'est pas assurée. C'est une des choses aussi qui est reprochée à Uber à Londres. Il y a aussi un autre aspect, Denis Jacquet, qui est la révolte des chauffeurs. Alors Uber a mangé le marché, a fait ensuite baisser ses prix, monter ses commissions, donc le revenu des chauffeurs est en chute libre. Est-ce que ça peut faire mal à Uber?
En fait, le vrai problème de cette économie digitale, mais pas seulement d'Uber, de toute l'économie digitale, c'est que c'est quand même une économie qui est juste le contraire de ce qu'on nous a appris, en tout cas moi dans mes écoles de commerce, qui est qu'une boîte, normalement, est là pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces boîtes sont capables un jour de gagner de l'argent? Bon. À très court terme, aujourd'hui, s'ils arrêtaient tout investissement de nouveaux pays, tout investissement marketing, etc., aujourd'hui, c'est une boîte qui pourrait être extrêmement profitable. Bon, elle arrête tout, elle suspend, on le voit dans plein de modèles digitales, vous arrêtez la pub, alors vous baissez le nombre de clients, mais par contre, vous commencez à voir votre rentabilité monter en flèche. Uber aurait cette capacité aujourd'hui, mais il veut continuer à dominer. Et à nouveau, de la même façon qu'Amazon l'a fait avant, il faut vraiment se remettre 15 ans en arrière, et Amazon, tous les ans, on annonçait leur liquidation. Donc, je pense que ce modèle-là va continuer à croître de cette façon. Je pense que les villes qui résistent ont souvent une motivation ou politique derrière. Mais très honnêtement, ils anéantissent Uber. Le lendemain, les 20, 30 ou 40 000 chauffeurs vont aller sur une autre appli.
Et il y a
fonctionne exactement de la même façon.
Il y a des pétitions qui circulent pour sauver Uber à Londres, d'ailleurs. Ça fait quelques semaines que ça
dure.
Et
les chauffeurs, évidemment, ce qu'ils n'aiment pas chez Uber, et ce qu'on leur a reproché nous-mêmes à l'Observatoire à un moment donné, c'est de changer ces conditions de façon unilatérale. C'est ça qui était insupportable. C'est-à-dire... je passe à 25%, vous avez rien à dire. Je change le forfait, vous avez rien à dire. Dans le même temps, chauffeur privé, qui est un de nos acteurs français, était déjà depuis longtemps à 25%, et personne ne s'en plaignait. Monsieur Lévesque a raison, la plupart, ils ont au moins deux applis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si Uber disparaissait de Londres le lendemain, ça va se répartir entre plein de plateformes VTC qui n'ont pas plus de sécurité, qui n'ont pas plus de formation, etc. Parce qu'aujourd'hui, notamment en France, si vous les formez, vous êtes requalifié en droit du travail, et en contrat de travail, parce qu'effectivement, si vous commencez à former des indépendants, on vous considère comme un employeur et non plus comme un prestataire.
Mais c'est vrai qu'on met là, le débat porte beaucoup sur Uber, parce qu'en quelque sorte, tout de même, il faut le dire, Uber, c'est un peu une entreprise voyou, c'est-à-dire, ils se sont lancés à la domination du monde en étant prêts à enfreindre un certain nombre de règles, mais c'est pas l'ensemble des plateformes VTC qui ont ce comportement aussi agressif et prêt à être à dépasser les lignes jaunes de plusieurs réglementations ou plusieurs lois. Donc c'est aussi ça qui est reproché un peu à Uber, cette façon de se comporter de façon extrêmement arrogante et souvent en allant au-delà de ce qui est licite.
Et d'ailleurs, Uber s'est rendu compte de ses reproches. Écoutez.
Chaque jour, nous prenons des milliers de routes différentes. Des bonnes, des mauvaises, des risquées. Nous avons toujours voulu aller plus loin. Mais nous sommes parfois allés trop vite. Et nous n'avons pas toujours su écouter. Il faut avoir tort. Se perdre. Revenir en arrière. S'arrêter.
Eh oui, une campagne de publicité à la télévision, au cinéma. Le patron, dont le comportement était plus que douteux, a été viré, tout simplement, le fondateur, même s'il est encore actionnaire de l'entreprise. Il y a eu des sondages chez les faiseurs d'opinion. Ça m'est arrivé, on m'a appelé en tant que journaliste pour savoir ce que je pensais d'Uber. J'ai répondu à ce sondage. Il y a une prise de conscience, Denis Jacquet ?
J'aimerais bien vous dire que oui, mais le consommateur me dit que non. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde clique obstinément toujours sur les mêmes applis sans se poser la question de savoir ce qu'il construit derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de construire un monde dans lequel notre index donne tous les jours un peu plus de pouvoir à des modèles chinois et américains sans se préoccuper de savoir si on pourrait pas construire des modèles européens. Bon. Et avec une ligne humaine, une ligne sociale qui éventuellement d'ailleurs serait différente. Mais il faut réussir pour être humainement et socialement
un peu plus responsable,
acceptable et responsable, il faut être économiquement pérenne. Or, sur un marché comme la France, qui est un tout petit marché, on n'a pas les moyens d'être économiquement pérenne. Donc il faut s'offrir un marché au moins européen. Alors moi, je rêve plutôt Europe et Afrique. C'est là où on pourrait constituer un troisième pôle mondial intéressant. Mais clairement, aujourd'hui, le consommateur se pose pas cette question et se pose pas la question de sa responsabilité. C'est-à-dire, quand il choisit le modèle Amazon sans faire de pub premium où il reçoit son truc en deux heures, qu'il n'ouvrira que le soir, au mieux, voire le lendemain, on a fini par faire du temps et de l'économie du temps un argument marketing qui n'a aucun intérêt en soi, puisque les gens le reçoivent à un moment où ils sont même pas chez eux. Donc, voilà, le consommateur ne fait pas un choix éclairé, on a beaucoup d'éducation à faire là-dessus, et on peut pas sans arrêt remettre l'opprobre sur la boîte elle-même, sans se regarder un petit peu en face dans un miroir et dire, moi, consommateur, qu'est-ce que je fais pour faire autre chose?
François Lévesque?
Il y a quand même un bel exemple européen ou de réussite française aussi, c'est Blablacar. Pour le coup,
de potentiel réussite.
Je pense pas que sur les VTC aujourd'hui, effectivement, les grandes métropoles, eh bien, il y a déjà plusieurs plateformes, et donc c'est sans doute plus le moment et sans doute trop tard pour une plateforme européenne ou française. Mais il y a d'autres exemples, et moi j'aime bien celui de Blablacar qui a fait une disruption ou une ubérisation ou une innovation disruptive, les mots ne manquent pas, en entrant par le bas du marché. C'est-à-dire que, comme souvent, au lieu, il y avait une clientèle délaissée, les jeunes qui pouvaient pas prendre le TGV parce que c'était trop cher, et en particulier, ou qui avaient pas de voiture ou pas le permis, c'est absolument extraordinaire comment Blablacar a réussi à développer de la demande et à s'intéresser à un marché qui était délaissé auparavant, et maintenant,
c'est une entreprise qui devient européenne, Blablacar,
européenne et même mondiale, si vous googlisez aujourd'hui avec Google Maps, vous verrez, vous pouvez choisir le transport à vélo, le transport en voiture ou même le transport Blablacar, et sur la plupart des villes dans le monde où Blablacar est, donc c'est extraordinaire.
C'est même un petit côté paradoxal, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, la personne qui vous prend dans sa voiture pour faire 500 km, qui peut s'endormir et n'est pas formée, n'a pas de conditions de sécurité particulières, je veux dire, elle n'apporte...
On ne sait pas dans quel état est la voiture.
Voilà, on ne sait pas dans quel état est la voiture. Elle apporte aucune garantie supplémentaire que ce qu'un VTC fait et qui a conduit Hitch en correctionnel ou Uber Pop à être interdit. Donc c'est assez marrant rassurant en même temps que le législateur est capable de s'arc-bouter sur des modèles qu'il déteste et en même temps de laisser prospérer d'autres. Alors moi je suis content parce que c'est une boîte française, c'est Blablacar, etc. Mais je rappelle juste que on est aussi pour l'instant dans l'illusion magique, c'est-à-dire que du digital, c'est-à-dire que quand ils ont levé sur une valorisation d'1,5 milliard il y a 2 ans, ils faisaient 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je veux dire 23 millions, 1,5 milliard pour l'instant, virtuel. Il va falloir que Blablacar prouve qu'il est capable de rattraper sa valorisation.
Il y a une nouvelle concurrence, si on parle juste du marché parisien qui arrive pour Uber, ça s'appelle Taxify, c'est une entreprise estonienne avec un actionnaire chinois qui est en fait le numéro 1 mondial du VTC, cet actionnaire chinois. Est-ce que il y a une chance avec cette force de frappe qui pourra arriver que Uber se fasse uberiser, François Lévesque?
Oui, il y a une chance, bien sûr, parce que la concurrence reste très forte du fait de ce modèle imitable, de barrières à l'entrée qui restent relativement faibles, du fait de cette notoriété de marque qui est moins bonne aujourd'hui qu'hier. Et puis Didi, puisque c'est Didi cette entreprise chinoise. Vous allez à Shanghai ou vous allez à Beijing, il n'y a pas 36 000 plateformes. Vous prenez Didi et tout le monde connaît Didi et vous demandez un Didi. Et donc là, cette entreprise chinoise, comme beaucoup d'entreprises chinoises, eh bien, elle se cantonne plus du marché chinois et elle s'intéresse à des marchés ailleurs. Donc, il est possible que Didi soit un grand opérateur, une grande plateforme dans un certain nombre de pays hors de Chine. Mais elle le sera avec d'autres. Il n'y a pas de raison à ce qu'il n'y ait qu'une seule plateforme par ville. Il y aura toujours plusieurs plateformes. On n'est pas dans un modèle du winner take all, dans un modèle où il n'y a qu'un seul qui gagne. On est dans un modèle le winner take most, c'est-à-dire il y a quelques gagnants, mais il y aura toujours quelques gagnants et donc de la concurrence qui continuera d'exister entre les différentes plateformes.
Denis Jacquet, vous le disiez, les entreprises naissent, vivent et meurent. Est-ce que Uber peut se faire uberiser par Didi?
Ouais, Uber, c'est-à-dire qu'en fait...
Parce que, enfin, actuellement, ouais. Uber, c'est quand même valorisation 60 milliards de dollars. Donc ça pèse lourd, il y a de la réserve derrière.
Ouais.
Est-ce que ça peut arriver, ce que vous disiez, qu'une entreprise qui est au sommet s'effondre?
Vous savez, on avait dit ça pour les banques en disant too big to fail, hein, donc trop gros pour échouer. Bon, et puis finalement, il y en a quand même une qui a sauté. Néanmoins, aujourd'hui, on voit bien que technologiquement et capitalistiquement, personne n'a intérêt à ce qu'Uber se casse la figure. Je veux dire, Google a mis 150 millions dedans, Apple a mis 200 ou 350 millions dedans. Dire tous les géants de la Silicon Valley sont dans ce truc et ont pas du tout envie de perdre leur argent. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que peut faire un Chinois? Si vous et moi, on est consommateurs et que on nous dit demain, tiens, il y a Taxify qui arrive, c'est Didi, etc. Qu'est-ce qu'il peut nous offrir pour qu'on change notre appli? Parce que les gens, ils sont roboratifs. Une fois qu'ils en ont une sous le doigt, ils changent très très peu. On n'en utilise pas 6 concurrentes tous les jours pour chercher un taxi.
Une ou deux à l'arrivée.
Deux maximum. Voilà. Ce qui veut dire que faudrait vraiment qu'ils m'annoncent un prix incroyable. Pour qu'il m'annonce un prix incroyable, ça veut dire qu'il va accepter de perdre beaucoup d'argent, parce qu'ils perdront beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il a derrière les reins suffisamment solides pour que son actionnaire ou ses actionnaires continuent à perfuser la machine à perdre de l'argent jusqu'à temps qu'il aille piquer des parts de marché à Uber. Donc le consommateur va être provisoirement content, sauf que ça durera un an, parce qu'au bout d'un an, il sera obligé de remonter ses prix comme tout le monde. Donc au final, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et je pense que Uber a lui aussi les moyens de jouer la surenchère. Donc là-dedans, au final, le consommateur, il est éventuellement gagnant quelques mois, et à terme, les prix remontent. Le chauffeur est rarement celui qui est le plus gagnant dans l'histoire, donc de toute façon, il est toujours mécontent. Bon, voilà, donc je pense que ça va être un jeu à plusieurs gagnants, comme le disait Monsieur Lévesque.
Oui, plusieurs gagnants, et puis c'est vrai qu'il y a eu des exemples historiques. Rappelez-vous ce truc-là qu'on appelait BlackBerry. BlackBerry a disparu, rappelez-vous Nokia. Donc il y a des entreprises qui, en quelques années, ont connu une position dominante globale, et puis la perdent. Donc Uber peut être dans ce cas-là.
Ça a failli arriver à d'autres, d'ailleurs, Apple, par exemple. Voilà. Ça a failli leur arriver, ils s'en sont sortis de justesse.
Et n'oubliez pas que la bataille, elle n'est pas là. La bataille, c'est la prochaine bataille. Et la prochaine bataille, c'est les flottes de véhicules dans les villes sans chauffeur. Et c'est cette bataille-là sur laquelle est Uber, sur laquelle est Didi, et les très grands sont là. Parce que là, il y aura des barrières à l'entrée. Parce que, les flottes, elles seront Uber ou elles seront Didi. Elles seront pas comme aujourd'hui en termes de plateforme. Donc, vous aurez des barrières à l'entrée très fortes. Et donc, qui va conquérir la flotte de véhicules sans chauffeur? Ça, c'est la grande bataille qui fait saliver tout le monde.
En fait, il faut bien comprendre que ces acteurs-là...
Il reste 15 secondes.
Alors, ces acteurs-là n'ont pas l'ambition de garder tous ces chauffeurs ad vitam aeternam. Donc, leur ambition, c'est de venir... les leaders du logiciel du transport autonome. Une fois qu'on a compris ça, on s'aperçoit que la vie de ces chauffeurs, de toute façon, est un job qui va rester très temporaire.
Merci Denis Jacquet, merci François Lévesque d'avoir participé à cette émission. Merci à Florence Ponce et à Valentin Vaner. Prochain débat, mercredi même heure, même endroit. Bonjour chez vous.